On continue la belle petite étude qu'on est en train de faire. On a déjà plus de 20 messages de fête sur l'Église. Là, on est en train de regarder dans le côté de quel est le but pour lequel Dieu a créé son Église. On l'a déjà dit que c'était un plan qui était installé avant la fondation du monde. Il n'y avait rien de créé que Dieu avait déjà décidé de marier son Fils. C'est fort. Le but de la création sur la terre, c'est ça, le mariage de son Fils. Oui, on a beaucoup de choses, que l'Église a beaucoup d'appels, elle a reçu beaucoup de responsabilités pour des choses à faire dans ce monde. On a beaucoup de raisons d'être, mais une entre autres, c'est celle que Dieu veut marier son Fils. Tout l'univers qu'on voit là, à perte de vue, c'était créé pour qu'il y ait de la vie sur la terre, c'était créé pour que Dieu mette des humains là pour en faire des fiancés pour son Fils. C'est fort. L'Église, en comme telle, c'est le rassemblement des fiancés du Seigneur. Dieu y est présentement à la recherche des futures épouses pour son Fils. C'est ça qu'il est en train de faire, ni plus ni moins. Oui, il a bien organisé les choses, il travaille fort dans le monde invisible. Puis nous qui travaillons dans le monde visible à évangéliser, parce que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Puis une fois qu'ils sont là, c'est déformé, mais d'en faire des disciples pour qu'ils persévèrent puis qu'ils marchent dans le bon combat de la foi. Puis l'Église est composée de gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, c'est là que ça se passe. Tu es pardonné, puis là tu changes de camp, tu appartiens à Dieu. Il t'a racheté. T'as racheté pour te modifier, te travailler, te transformer, pour t'amener à être une épouse pour son Fils. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. C'est le même qui veut présenter son épouse qui est en train de se préparer, de préparer ses vêtements, préparer son apparence pour se présenter, pour être belle pour le Seigneur, pour les noces de son Fils. Dieu nous a déjà révélé ça par brides. Il y a des enseignements que Jésus a enseignés avec des paraboles, puis il y a des enseignements directs, puis il y a aussi les apôtres, puis on a aussi dans l'Apocalypse qui en parle. Puis aussi, même dans des prophéties dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà dit ce message-là, mais il n'y a pas grand monde qui l'ont saisi. Que Dieu est en train de préparer des futures épouses pour son Fils. Dans une parabole, Jésus nous a parlé d'un roi qui appelle les gens aux noces de son Fils. Dans Matthieu 22, le verset 2. Jésus commence de même et dit, « Le royaume des cieux, c'est semblable à un roi qui fit des noces pour son Fils. » Tu peux pas être plus direct que ça. Dieu est en train de préparer des noces dans le monde invisible, mais il dit que ça, c'est le royaume des cieux. Ce qui se passe dans le ciel, il y a un roi dans le ciel, Dieu, qui règne sur des milliards d'anges, puis est en train de préparer une noce pour son Fils. C'est le plan de Dieu. C'est le plan éternel de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire présentement, puis est en train d'appeler des convives pour assister à ces noces-là. Des convives, des invités, des gens qui sont appelés à dire « Oui, j'y vais » ou « Achale-moi pas, j'ai pas le temps, chacun va s'en retourner à ses affaires. » Quand on parle de noces, on parle de fête de mariage. Le mot « strong » que là, c'est « noce », c'est fêter un mariage. Une noce, là, c'est un party, c'est un banquet de noces, c'est une cérémonie d'épousailles, qu'ils disent dans « d'épousailles », je savais pas ce mot-là, mais c'est pour marier des gens ensemble, deux ou des gens ensemble. Jésus, c'est le seul qui a le droit d'avoir plusieurs épouses comme ça. Il a battu Salomon. Salomon n'avait 700 femmes, 300 concubines. Comme roi, c'était grandiose. le Seigneur va en avoir des milliards. Qui vont former un seul peuple, une seule famille. Puis il se marie dans la famille en plus. Il se marie avec ses sœurs et ses frères dans le Seigneur, qui sont des fils de Dieu. Mais ça l'enlève pas, là, en faisant des blagues là-dessus, ça l'enlève pas le sérieux de l'appel. Ça l'enlève pas le sérieux de la raison d'être de l'Église qui est là, en chemin vers ces noces-là. On est en chemin vers cela. On peut pas, si t'es sauvé, tu peux pas les éviter, les noces. Tu vas les vivre. Tu vas être habillé, tu vas être présenté devant le Seigneur, puis tu vas être marié, il va y avoir un mariage, puis tu vas te marier avec. C'est pas pour comme les mariages terrestres avec la sexualité, ça existera pas la sexualité. C'est une vie d'amour, de sécurité, de bien-être, de joie, de bonheur, dans la famille de Dieu. Dieu est en train de faire de préparer son banquet. Son banquet, là, sa table est déjà mise. Est déjà mise et installée, puis tout est prêt dans le monde invisible. Son plan, il changera pas. La seule affaire qui peut changer, est-ce que je vais y être ou j'y serai pas. Mais lui, son plan va avoir lieu que j'y sois pas. Mais Dieu invite tout le monde à y aller. Cet appel-là a été aussi répété dans les prophéties de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 19, le verset 9, ça dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Quand Dieu promet quelque chose, arrange-toi pas pour manquer l'occasion. C'est une opportunité. C'est pas un, oh non, je suis obligé d'aller à son mariage. Non, c'est une opportunité. C'est une bénédiction. Imaginez que vous êtes une fille célibataire présentement, puis le roi d'un pays vous demande en mariage. Prendriez-vous ça à la légère? On se dit-tu, oh, moi, j'ai pas le temps de me, moi, je veux pas être une reine. Qui c'est qui aimerait, tu vois, on regardait des films quand on était jeune. Tout le monde veut être un prince ou une princesse. Tout le monde veut se marier, avoir aimé être un roi ou un, tu sais. Imaginez, c'est le créateur de l'univers qui marie son fils puis que lui, il nous invite. Il y a plus rien de plus important que cette invitation-là. Il nous dit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Il nous a déjà appelés, puis on est déjà conscient de cet appel-là. On le sait que c'est à nous que ça s'adresse parce que c'est écrit dans la parole à qui ça s'adresse. Lorsqu'une personne répond à l'appel du Seigneur, quand il t'appelle à te repentir, tu deviens une personne qui est promise en mariage avec le Seigneur. Tu ne vas pas juste accepter Jésus pour être pardonné de tes péchés. On devrait aussi expliquer que tu es appelé aux noces du Fils. Ça fait partie de l'appel. Tu n'es pas juste appelé pour être pardonné. Pas juste appelé pour être sauvé. Pas juste appelé pour dire, je rentre au ciel, là, puis du moment j'ai la dernière place, là, je suis correct. Moi, j'ai déjà passé souvent comme ça. Moi, j'aspirais pas à des grandes places, j'aspire au moins je rentre puis je suis à la porte ou à terre, assis à terre quelque part, ou au moins je suis là, que je sois là, c'est le plus important. Mais là, c'est bien plus que ça. Il veut faire de nous les épouses de son Fils. On est des promises en mariage avec le Seigneur, puis on est tous regroupés dans l'Église avec les autres vierges fiancées au Seigneur. Il y a aussi ça qu'il faut penser. Que tu sois un grand chrétien théologien, un grand prédicateur, un grand évangéliste ou un grand missionnaire, puis t'as ouvert 60 églises, c'est pour lui aussi. C'est pour aussi la petite brebis qui est faible, qui a accepté Jésus, mais tu la vois pas nulle part parce qu'elle a de la misère dans sa vie. Elle marche par la foi, puis les problèmes arrivent un par-dessus l'autre, puis toujours malade ou quoi, qui mais a été rachetée, est sauvée, puis elle va être mariée elle aussi. On est un rassemblement de futurs fiancés. Tous ceux qui ont accepté Jésus font partie de l'Église, du corps de Christ. Font partie aussi de ceux qui vont se marier avec Jésus. Dans 2 Corinthiens 11, 2, l'apôtre Paul l'explique. Il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que, écoutez bien celle-là, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est sûr que dans le mot vierge que là, ça parle pas au sens propre physique. Parce que je pense pas qu'il y ait encore des vierges, surtout quand tu es marié depuis 40 ans. Ça parle pas au côté sexuel, ça parle au côté d'être pardonné, purifié, lavé dans le sang de Jésus, que tu marches dans sainteté, c'est là le sens du mot vierge. Il nous a présenté comme étant des vierges pures, comme si on appartient à rien d'autre que à lui. On est réservé pour lui. C'est pour ça que dans cette idée-là, quand un chrétien va participer à des choses avec des idoles ou avec des faux dieux, là, il est en train de tromper le Seigneur. Il appelle ça de l'adultère spirituellement parlant. Tu peux être en adultère spirituellement parce que tu es une promise à Dieu, puis tu patauges, tu fraternises avec les autres dieux. Et c'est sûr que là, ça marche pas. Tu es un infidèle, t'es plus une vierge pure, t'es rendue une prostituée. C'est de la prostitution. C'est de l'adultère au point de vue du Seigneur, spirituellement parlant. Il dit, je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, parce que Paul le savait qu'il y a un mariage qui s'en vient. Puis quand tu acceptes Jésus, là, tu fais partie de ceux qui sont promis au Seigneur. On est ces futurs qui se consacrent, qui se préparent à la rencontre de notre Dieu pour être présentable. Dans l'enseignement du Seigneur, la parabole qu'on a parlé du premier verset, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. On va continuer à éplucher ce sujet-là dans ce parabole-là. Dans cet enseignement-là du Seigneur, ça dit que l'invitation était faite aux Juifs premièrement. C'est les Juifs qui étaient appelés à faire partie de l'épouse de Christ. Au verset 3 de Matthieu 22, verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ça, c'est le grave de l'histoire, parce que les gens réalisent pas c'est à quoi l'appel d'aller croire au Messie, puis de marcher avec le Messie en vision. Ils attendaient le Messie, mais quand il est venu, ils n'ont pas cru, puis ils l'ont rejeté. Mais il était devant eux autres, il a fait des miracles, il a prouvé ce qui était Jésus par ses miracles, par ses enseignements que personne d'autre avait fait, ni les miracles, ni les enseignements. Puis ils n'ont pas voulu croire que c'était lui le Messie. Ils ont rejeté, ils ont refusé l'appel, la majorité. Dieu a insisté pendant des millénaires pour inviter les descendants d'Abraham aux noces. Ça a duré des 1000 ans, plus que 1000 ans. Dans Matthieu 22, le verset 4, ça disait au verset 3, ils n'ont pas voulu venir, puis au verset 4, bien, il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Non seulement Dieu, sa résolution est déjà décidée qu'il était pour faire ces noces-là, mais c'est déjà prêt. On peut déjà être appelé, sachant que tout est prêt, notre place, quand tu l'acceptes, il écrit ton nom sur la chaise. Mais la chaise est déjà là où tu vas aller t'asseoir. Amen. Quand tu acceptes Jésus. Ça dit, il envoya d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Dieu a insisté, puis a envoyé des prophètes, puis jusqu'à temps qu'il a envoyé son fils. C'est ce qu'il nous dit dans une autre parabole. quand il parlait en parabole des vignerons, il envoyait un serviteur pour avoir une partie du fruit de la vigne, puis après ça, il envoyait son fils. Mais les serviteurs, ceux qui étaient là, qui géraient la vigne, ils ont tué les envoyés. Puis ils ont tué même son fils dans les paraboles. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont refusé l'appel, puis en plus, ils ont tué les envoyés qui venaient pour les inviter. Il nous parle aussi de la réponse Dieu dans ce passage-là, dans Matthieu 22, qu'on est en train de regarder, ce parabole-là. Il nous parle aussi de la réponse des gens et des conséquences de ceux qui acceptent et de ceux qui refusent l'invitation. Parce qu'il va y avoir des conséquences. Si une personne est appelée, puis elle dit non, graves conséquences. Non seulement ils n'ont pas répondu à son appel, mais ils ont tué les prophètes, puis même son fils. Dans Matthieu 22, verset 5, il y en a qui ont ignoré complètement, ils ont refusé, ils n'ont pas répondu. Il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, puis les tuèrent. Puis Dieu fait des efforts pour préparer des gens spirituellement, ces prophètes-là, pour qu'ils comprennent le message, puis d'aller voir les Juifs, puis de leur dire, repentez-vous, acceptez Jésus. Puis les Juifs, ils ont ignoré ça, puis ils continuent à s'occuper que des choses matérielles de ce monde. Ils ont refusé l'appel de Dieu. Puis il y en a même qui ont tué les envoyés. Le message du salut puis du jugement de Dieu se joue là, autour du rejet de l'appel de Dieu puis de la mort de ses envoyés, surtout pour son fils qui s'est fait assassiner. Parce que Jésus s'est fait assassiner pour cette cause-là, de permettre à des gens d'entrer dans ces noces-là. Dans Matthieu 22, verset 7, le roi fut irrité. Pensez-vous qu'il n'y a pas une raison d'être irrité? Tu fais tout, tu prépares les noces, tu prépares le banquet, tout est prêt, t'envoies tes serviteurs, puis le monde ignore ton invitation, puis en plus, il tue tes envoyés. Dans ce parabole-là, ça dit, le roi fut irrité, puis notre Dieu y est irrité. Faut pas penser que Dieu, ça y a rien fait. Ça nous le dit que Dieu est en colère. Il dit, celui qui accepte Jésus, il est pardonné, mais celui qui accepte pas Jésus, ça le dit dans Jean 3, 36, la colère de Dieu demeure sur lui, sur la personne qui rejette. Le roi fut irrité, puis envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers, puis brûla leur ville. Tu vois le jugement de Dieu, où est-ce que ça va finir? C'est la mort éternelle. Si on compare ça avec les autres enseignements, il n'y a pas de deux places l'autre bord, sur le bord à Dieu, ou trois places à aller. C'est soit tu participes à l'invitation, ou soit tu vas être rejeté, puis c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Les gens vont périr, puis voir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Être rejeté, pas parce que Dieu ne voulait pas les inviter, Dieu fait tout pour les inviter. Dieu, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Il a même donné son fils pour qu'il se fasse assassiner, pour nous permettre de pouvoir être pardonnés. C'était impossible aux humains de rentrer par eux-mêmes. Nos péchés nous empêchaient d'entrer. Puis Dieu a réglé le problème du péché en faisant payer Jésus à notre place pour nos péchés. Il ne peut pas rien faire de plus, puis en plus, il envoie des gens, nous, il a envoyé les prophètes avant dans l'Ancien Testament, mais là, il nous envoie nous pour annoncer puis dire qu'il y a des noces qui s'en viennent, puis Jésus nous appelle à être pardonnés puis à se préparer pour ces noces-là. Dieu veut marier son fils. Puis là, après avoir fait le jugement, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais ces conviés-là n'en étaient pas dignes. » Les premiers conviés, les premiers invités, c'était le peuple juif. Les promesses de Dieu étaient pour le peuple juif, les descendants d'Abraham. On en a parlé un peu la semaine passée. que c'est pas tous ceux qui sont descendants selon la chair qui sont les vrais descendants d'Abraham. C'est ceux qui marchent dans les traces d'Abraham, qui marchent par la foi. Puis là, il dit, il y a encore bien de la place. Il dit, à cause de leur rejet du peuple juif, l'appel aux noces est devenu accessible à tous les peuples. À cause que les Juifs l'ont refusé, maintenant, ça a ouvert la porte aux nations dont on fait partie. Puis là, c'est là que Dieu dit, oublie ceux qui étaient invités, là, les conviés. Là. Puis là, au verset 9 de Matthieu 22, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Là. Tout le monde, l'invitation est à tout le monde qui est là. Tout le monde qui vit sa planète est appelé à rentrer dans ces noces-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis on fait partie de ces quiconques-là qui a répondu à l'appel. Invite tous ceux que tu trouveras. Puis là, ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Les méchants comme les bons, parce que faut pas penser qu'on était des bons. On était tous des méchants. La Bible, elle dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Notre bouche est un sépulcre couvert. On dit des conneries depuis qu'on est au monde. Tu commences à parler, puis c'est pas long que tu comptes des menteries, puis c'est pas long que tu vas même blasphémer ou envoyer promener tes parents. Ce n'est que de la méchanceté qui nous vient dans la tête, mais on trouve ça drôle, on pense que c'est des blagues. Mais il n'y a pas rien que dans nos paroles, il y en a nos pensées aussi que Dieu a regardé, puis ça tourne dans le mal. Nos agissements, on a ignoré Dieu pendant des années. Puis là, ça nous dit que ses serviteurs, ils allèrent dans les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants comme les bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Faut pas penser qu'il y aura pas beaucoup de monde au banquet des noces de l'agneau. Ça va être plein. Plein, puis Dieu savait qui se rendrait, puis il y a des chaises pour tous ceux qui vont se rendre. Inquiétez-vous pas si vous dites, je vais savoir ma place de prêtre. La minute que tu te repens, dit ton nom était déjà écrit dans le livre de vie, Dieu il savait. Il a dit à ses disciples, réjouissez-vous pas que les démons sont soumis, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est le livre d'invitation, ça. Tout le monde sont invités, mais on va voir dans un verset, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ceux qui répondent à l'appel qui vont y participer. Mais attention, on a reçu cet appel-là, puis on est conscient de cet appel-là. Mais il est important aussi que ces convives, nous, qu'on soit revêtus des habits de noces. Nos habits de noces, ce sont les œuvres justes des saints. On va le voir dans quelques versets. Ce qu'on est revêtu, là, c'est qu'est-ce qu'on a fait de biblique, de saint, ce qu'on a fait pour servir le Seigneur, c'est ça qui va nous faire paraître plus beaux. Il y en a qui vont être extrêmement beaux, puis il y en a d'autres qui vont être juste des canetons. Une manière de parler, parce que s'ils sont pas nulle part, ils sont pas nulle part dans l'œuvre de Dieu, puis ils servent pas Dieu, ils ont accepté Jésus, ils sont sauvés, mais ils sont sauvés comme s'ils ont passé à travers du feu, parce qu'ils sont occupés, ils croyaient en Jésus, ils suivaient Jésus, mais ils s'impliquaient pas nulle part, ils servaient pas dans rien, ils sont pas ramassés de récompense. C'est ça qui nous couvre l'autre bord pour paraître plus beau. C'est là le secret. Jésus dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. C'est pas automatique, les trésors. Faut que tu travailles pour les ramasser. C'est ça qui va nous rendre plus beaux. Amen. L'autre bord. Pour ça que trouvons nos talents, trouvons nos dons, demandons au Seigneur, Seigneur, je veux te servir, tu m'utilises, conduis-moi, puis je suis sûr que le Seigneur va vous trouver un job. Il y a de l'ouvrage pour tous ses serviteurs. Il y a de l'ouvrage en masse. Puis pendant que les serviteurs sont pas tous à l'œuvre, c'est sûr qu'il y en a qui travaillent deux fois plus fort. suis pas une critique, c'est, je dis ça pour qu'on le voie positivement, que c'est important que tout le monde participe. Ça allège l'effort dans l'ensemble quand il y en a plusieurs qui s'impliquent. Dans Matthieu 22, ce roi-là, il dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Puis il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Puis il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme-là, il a eu la bouche fermée. On ne pourra pas s'ostiner devant Dieu. Si Dieu nous dit « bon et fidèle serviteur », c'est sûr qu'on va être bien content. Puis s'il nous dit « méchant serviteur puis paresseux », comme tu vois qu'il dit dans une des paraboles, dans la parabole des talents, il traite son serviteur de « méchant serviteur » puis de « paresseux » parce que le gars, il a enterré ses talents, son talent qu'il avait reçu. Il était découragé, peut-être, j'en ai qu'un. « Oh, pour pas le perdre, je vais l'enterrer. Il a rien fait. » Jusqu'à où que ça va, là, c'est pas moi qui juge, je veux pas être le juge de ces affaires-là. C'est Dieu qui décide. Mais empressons-nous de déterrer nos talents puis de trouver où est-ce que je peux l'investir pour qu'il ramasse au moins les intérêts. Tiens, amen, là, de temps en temps. Dans Matthieu 22, pour celui qui avait rien fait carrément, absolument rien, là, puis par hasard, qui serait rentré sans rentrer par la bonne manière, qui est impossible, mais ça a l'air que même s'il y en aura un qui rentrera sans qu'il soit entré avec la bonne raison d'être rentré, il va être jeté dehors. C'est ce que ça nous dit. Alors le roi, au verset 13 et 14, ça dit, alors le roi dit aux serviteurs, liez les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, ce qui aura des pleurs, des grincements de dents. Car, c'est là qu'on regarde encore, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés, il y en a même qui en ont entendu parler, ils vont s'asseoir un bout dans l'église, après ça, t'es revoué plus. Ils sont disparus. Ils étaient appelés, ils avaient même reçu, mais ils ont lâché. Faut qu'ils reviennent avant de mourir, parce que s'ils meurent dans cet état-là, je veux pas être à leur place. Dieu fait une différence entre un appelé puis les élus. Les élus, c'est ceux qui rentrent puis qui vont profiter de tout. Les autres, ils étaient appelés, ils peuvent avoir été assis dans l'église pendant 6 mois, 1 an, 10 ans. Il y en a que c'est au bout de... J'en ai entendu un que c'était un pasteur évangélique qui était, je pense, pasteur pendant 30 ans puis il a lâché de suivre le Seigneur puis s'en aller d'une religion. Puis il n'y a pas un qu'un comme ça, mais je donne l'exemple d'un que je sais. Ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a soit que le diable a travaillé fort pour le mêler bien comme il faut, qu'il ne comprenne plus pourquoi il suit Jésus. Pourquoi suivre Jésus? Tu te ramasses dans une religion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent, qui font croire que n'importe quelle religion est bonne. Les communistes, c'est qu'on est tous frères, puis on marche bras dessus. Ça, c'est le diable qui dit ça, c'est pas la Bible. Faut suivre Jésus et sa parole. Amen. Puis suivre sa parole, c'est de joindre une assemblée à quelque part. Une assemblée de gens qui font partie. Ça fait partie de sa parole. Ceux qui disent, oh, pas besoin d'aller à l'église. Peut-être t'as pas besoin d'aller à l'église, mais Dieu, il veut que tu y ailles. Puis l'église a besoin de toi aussi. Implique-toi dans l'église pour servir le Seigneur avec ce que tu as reçu. Jean-Baptiste, il connaissait l'appel de Dieu à propos de ça, puis il avait annoncé que Yeshua, Jésus, c'était l'époux envoyé par Dieu. Jean-Baptiste en a parlé. Il a dit dans Jean 3:29, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il parlait de Jésus. Puis lui, il se considérait l'ami de l'époux. Il dit, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Il dit aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il avait reconnu en Jésus, quand il a parlé, là, il reconnaissait en Jésus que Jésus, c'était l'époux. Puis il l'a annoncé, Dieu en a parlé dans l'Ancien Testament, puis il en a parlé par Jean-Baptiste, puis il en a parlé par les prophètes. La Bible parle qu'un jour, il va y avoir le couronnement du Seigneur. Autant que c'est annoncé que Jésus viendrait et qu'il mourrait pour le pardon des péchés, c'est aussi annoncé que le Seigneur va être couronné pour être le roi de toute la création. Puis qu'au nom du Seigneur, tous les genoux vont fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Ça s'en vient. Son règne n'est pas encore établi. Il n'a pas encore pris possession de son règne, mais il y a un moment précis qui est annoncé dans l'Apocalypse où ce que Jésus va prendre son règne. Ça, c'est dans Apocalypse 19, le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre. Ça a dû mener du vacarme, cette foule nombreuse-là, que l'on chien wack, en disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il est entré dans son règne. » Cette multitude-là, c'est l'Église qui est enlevée, puis elle est dans le ciel en train de glorifier Dieu, que Jésus est en train de prendre possession de son règne. Il y a un jour qui s'en vient où est-ce que ça va s'accomplir. Puis dans le même verset, l'autre verset après, c'est là que ça parle des noces de son Fils. Les noces qui suivraient la possession de son règne. Les noces qui vont suivre, puis son épouse a été enlevée puis revêtue de ses habits de noces. Dans Apocalypse 19, verset 7. Puis là, ça me dit qu'il y en a qui criaient que le Seigneur rentrait dans son règne, puis ça dit « Réjouissons-nous, puis soyons dans l'allégresse, puis donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. C'est ça qui va être notre belle apparence. C'est un fin lin éclatant pur. Le linge est en fin lin. C'était le lin, c'était le tissu qui était utilisé par les sacrificateurs puis les lévites pour servir dans le temple. C'est en lin. Mais là, on parle pas d'un lin naturel. On parle d'un lin surnaturel de beauté puis d'éclat. Puis il paraît que c'est un tissu léger, puis ça a peut-être des propriétés que j'ignore, mais l'épouse est là, il prend son règne, puis l'épouse est là, puis elle est préparée, puis elle a ses vêtements qui la recouvrent, un fin lin, parce qu'elle s'est préparée pour se marier. Tu arrives là en vêtements de robe de mariée. Puis là, il explique c'est quoi ça, le fin lin. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça que je vous disais tantôt. Comment ça se fait que quelqu'un peut être là et qu'il n'y ait pas d'habit de noces? Ton habit de noces, c'est ton fin lin qui va te recouvrir pour te marier. Puis ça, c'est tes œuvres que tu as faites dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus insistait de dire « Amassez-vous des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce qu'on se ramasse, tu le conserves pour l'éternité comme récompense. Il n'y a pas de voleur l'autre bord, il n'y a pas de rouille. Ici, là, tu as des biens, tu t'aperçois 30 ans après que ton char il tombe en ruine. Toutes les pièces, tout est casse, là. Toutes les tuyaux pètent, les hausses sont éventées, puis la rouille pogne après la carrosserie. Tous nos biens se détériorent. La couverture, le bardeau d'asphalte, il vient friser, puis il fend, puis il y a des morceaux partis au vent, puis là, l'eau rentre. Ça détériore ici, mais rendu l'autre bord, tout ce que tu vas te ramasser, ça demeure éternellement. Tu perdras rien. Pour ça que notre but devrait être servir le Seigneur le plus possible pour être le plus beau possible rendu l'autre bord. C'est notre fin lin qui va nous recouvrir pour se présenter devant le Seigneur. Oh, regarde, Seigneur, comment je suis beau, le gars, il est en caleçon. Parce qu'il n'y a rien, il a presque rien fait. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit complètement revêtu de tous ses apparats, puis les médailles, puis les bébelles qui vont aller. Il y avait des choses, des ceintures, il y a des franges, il y avait toutes sortes d'affaires après le vêtement qui les rendait beaux, les sacrificateurs. Mais c'est ça que Dieu, des images qu'il voulait qu'on ait quand on se présente devant lui, d'être bien décoré. À la fin de cette vie sur terre, toute cette création va être détruite. Tout ce qu'il y a ici va être détruit. Tout ce qui occupe notre temps, toutes nos affaires dans le monde, là, ça n'existera plus. La planète n'existera plus. La création n'existera plus. Tout va être scrappé, disparu. Tout ce qui était des choses anciennes, ça va être comme juste un petit souvenir de rien. Mais on va être dans le permanent. Dieu va créer un nouveau ciel puis une nouvelle terre qui perdureront éternellement. Sur cette nouvelle terre, il va avoir l'épouse du Christ. C'est son Église. La nouvelle Jérusalem, là, c'est l'habitation de son Église. C'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Là, on lit dans l'Église, spirituellement parlant, on est le temple de Dieu, qui est le bâtiment où ce que Dieu habite dans nos cœurs. Il est aussi là, en dehors, mais il est aussi en dedans. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais rendu l'autre bord, il va y avoir que des gens sauvés dans des corps glorifiés, puis tout rempli du Saint-Esprit. La présence de Dieu va être au max. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, là, à partir du verset 1, je vais vous le lire rapidement. « Puis je veux un nouveau ciel et une nouvelle terre. » C'est comme je vous disais. « Car le premier ciel puis la première terre avaient disparu, puis la mer n'était plus. » Tout va disparaître. Ça dit dans d'autres versets, ça va être roulé comme un vêtement, comme un vieux vêtement qu'on jette. Tandis qu'il va créer un nouveau ciel. Puis ça, il dit, l'ancien, on trouvera même plus de traces de ça. « Et je vis descendre du ciel cette nouvelle terre-là. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » La nouvelle Jérusalem est préparée pour l'époux, puis l'épouse va être dedans aussi. « J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici l'habitation, le tabernacle, c'est le mot « habitation ». Voici l'habitation de Dieu avec les hommes dans cette nouvelle bâtisse-là, qui est le nouveau temple céleste sur cette nouvelle terre. C'est une bâtisse immense de 1200 000 de long par 1200 000 de large, 1200 000 de haut. Il y a 12 étages, puis toutes les rues sont pavées d'or. Les murs, c'est du cristal transparent. Les portes, c'est comme des perles. Puis la lumière sort de la ville parce que c'est Dieu qui éclaire de sa lumière. Il n'y a plus de soleil, plus de lune. Là. Puis il n'y aura plus de nuit, ça va être le jour à l'année longue. Mais il n'y aura plus d'année, ça va être un temps éternel sans fin. Le temps, ça se passe sur la planète ici. Rendu l'autre bord, le temps, il n'existe plus. Tu es, that's it, tu es là, tu es. Soit tu es là ou tu n'es pas là. Si tu es là, tu es là. Sinon, tu es ailleurs. Dans un tuet où ce que le monde va avoir des pleurs, des grincements dedans. Rejeté à cause de nos péchés. Puis là, il dit, voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça va être super. On peut pas s'imaginer comment ça va être beau, cette affaire-là, à part de regarder les détails, là. Mais quand c'est raconté de même, tu te fais une idée floue. Mais quand on va voir la beauté, la lumière, les couleurs, tout ce que c'est, là, on ne créera pas ça. Il y a une prophétie du prophète Isaïe qui nous annonçait que notre Créateur, c'est notre époux, c'est Yeshua. Puis il est notre rédempteur en même temps. C'est dans Isaïe 54, le verset 5. C'est pour dire que Dieu l'avait révélé dans l'Ancien Testament que le Fils, qui est le rédempteur, serait notre époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. C'est qui est le rédempteur qui nous a rachetés par son sang? Le mot rédempteur veut dire celui qui rachète. C'est Jésus. C'est notre Créateur, c'est notre époux, c'est l'Éternel des armées qui est son nom. puis c'est le Rédempteur, le Saint d'Israël. Tous ces noms-là, il se nomme Dieu de toute la terre. Ça parle de Jésus, ce verset-là. C'est Jésus. C'est notre époux, c'est notre Créateur, c'est l'Éternel, c'est le Dieu éternel. Là, au verset 6, ça nous dit la promesse, là. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Là-dedans, ça parle du rejet des gens parce qu'ils sont, ils marchent dans le péché. Puis ça parle aussi de l'accueil que Dieu va faire, puis comment est-ce qu'il va nous rassembler comme une épouse. Ce que ça dit dans ce texte-là. Puis je finis avec un dernier verset. Maintenant, l'épouse est encore dans le travail. Faut pas oublier que l'épouse, nous, on est dans le travail avec le Saint-Esprit. La job de recensement, d'appeler les gens à venir au salut, c'est encore le temps. C'est nous qui avons cette responsabilité-là de travailler avec le Saint-Esprit pour aller chercher les gens pour les amener. Dans Apocalypse 22, 17, je finis avec ce verset-là, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. » On dit aussi, et que celui qui entend dise, viens. Fait que ceux qui entendent l'appel de l'Esprit de l'Épouse, eux autres aussi, il faut qu'ils disent, viens au Seigneur pour le recevoir comme leur sauveur. Dans l'appel, c'est que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est ça l'appel de Dieu dans son amour. Il a tout payé par Jésus. C'est pas un salut gratuit dans le sens que ça vaut rien, c'est pas important. Non, on n'aura pas été capable de se le payer. Impossible. Fallait que Dieu paye le prix à notre place, puis il l'a fait. C'est une entrée gratuite parce que Jésus l'a payé. Si on rentre gratuitement, puis on boit aux eaux de la vie, c'est un cadeau, une grâce que Dieu nous fait de pouvoir recevoir le cadeau sans effort. Juste par la foi, puis s'engager à l'accepter comme notre sauveur, à lâcher de rejeter l'appel, puis de dire, je la reçois, je dis, viens, je la veux, cet appel-là. Je veux faire partie de ceux qui vont être son épouse un jour. Je veux rentrer dans le ciel. Je veux aller aux noces de l'agneau. Je veux rentrer dans la ville sainte. Je veux vivre cette histoire sans fin avec le Seigneur. C'est ça qui est le plan de Dieu.
Merci, Seigneur.
Peut-être que vous l'aviez jamais entendu, ce que Dieu vient de promettre là, mais ça fait partie, ce sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je vais faire un appel, s'il y en a qui se disent, moi, je résiste, je rejette, mais là, je vais arrêter de rejeter, parce que si vous rejetez, vous savez pas quand, si vous allez avoir une autre chance de l'accepter. J'en connais des gens, moi, qui étaient assis à l'église, puis finalement, ils sont tombés raide mort à côté de leur char, ils s'en allaient faire des commissions, puis ça venait de finir là. Je pense à mon oncle. C'est ça qui est arrivé à un de mes oncles. Il est venu à mon baptême, il est venu 2-3 fois à l'église, il a entendu les paroles, mais il a continué à vivre sa vie, puis s'occuper de son champ, de son trafic, s'occuper de ses affaires, sans s'occuper de ce que Dieu donne comme appel. Et à un moment donné, il est mort à l'âge de 50 ans à peu près, mon oncle. Il tombait mort, drette là, un coyot de son cerveau à 50 ans. Pas accepter Jésus. Rejetez pas. Remettez pas ça à demain, remettez pas ça après-demain. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, c'est une question de vie ou de mort. Pas la mienne, j'ai déjà fait mon choix, de la vôtre. À ceux qui n'ont pas encore répondu, dites au Seigneur, vous voulez être sauvés. Demandez-y pardon. Dites-y que vous voulez que votre vie change, que ce soit des gens dans la salle ici ou sur Internet que vous écoutez ce message-là plus tard. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas décidé de suivre Jésus, prenez la décision maintenant. Je vais faire une prière, répétez cette prière-là. C'est pas une phrase magique, c'est juste des mots pour nous dire qu'on capitule, qu'on abandonne notre vie, on y donne notre vie au Seigneur, on reconnaît que le Seigneur il a payé pour nous pardonner, puis qu'on reçoit gratuitement son cadeau de la vie éternelle. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne vos péchés. Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Dieu n'est pas menteur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous l'avez invoqué parce que vous voulez le suivre, restez ferme dans cette position-là. Marchez dans la foi jusqu'à la fin, puis un jour, on se retrouvera ensemble dans la ville sainte. On se connaît peut-être pas aujourd'hui, mais on va se connaître rendu l'autre bord. Amen.